Mon cher Éric Lantier, donc, content de vous retrouver à chaque semaine. On aura l'occasion de se parler. Et aujourd'hui, entre autres, quelques sujets, dont le premier que j'introduis tout de suite, qui est la décentralisation du système scolaire. C'est de ça dont vous voulez nous entretenir, entre autres, Éric Lantier.
Oui, et ça va faire partie d'un billet que je vais publier vendredi sur la plateforme du Prince Arthur. Oui. Alors, ce billet va être aussi accessible sur ma page ericlantier.net. Et je veux parler de la décentralisation parce qu'il y a eu un article de Daphné Dion-Vien qui a été publié sur les pages du Journal de Québec et qui nous annonçait à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.
OK.
La bonne nouvelle, c'est que le décrochage scolaire est à la baisse au Québec, mais la mauvaise nouvelle, c'est que lorsqu'on passe au peigne fin, les 17 régions administratives du Québec, il y en a certaines qui ont de la difficulté, comme par exemple l'Outaouais, où est-ce qu'à peine une personne sur deux, un élève sur deux, finit son secondaire en 7 ans.
Mm-hmm.
Et ça, c'est préoccupant. Alors, moi, ça fait des années que je propose à ce qu'on puisse avoir un système qui n'est pas, par exemple, qu'on dit en anglais « one size fits all », qui est un format unique ou un modèle unique. On a des exemples. Au Salvador, par exemple, les écoles qui sont gérées par la communauté ont réussi à augmenter la participation des parents et accusent moins d'absentéisme, autant chez les élèves que chez les enseignants. Donc, on voit par là que l'exemple de décentralisation, ça fonctionne. On a un autre exemple au Nicaragua. Les élèves qui fréquentent les écoles qui démontrent plus d'autonomie réussissent mieux aux examens. Donc, pourquoi on ne s'inspire pas de ces régions du monde qui réussissent, qui ont du succès, pour justement améliorer le sort de nos jeunes qui ont besoin d'un diplôme, qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin de formation. Et moi, j'encourage le gouvernement à aller dans ce sens-là.
Mais juste pour compléter rapidement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de... effectivement, est-ce qu'on ne se ferme pas un peu les yeux en prétendant que nous, on le connaît, le système? Puis là, vous me parliez, M. Lantier, du Nicaragua. Oui. Et peut-être qu'on pourrait penser à, bon, j'emploie l'expression rapidement, snobber un peu, dire, ben voyons donc, le Nicaragua, ça n'a aucun rapport avec nous. Est-ce qu'on n'est pas porté peut-être à regarder ça trop haut, puis qu'on devrait aller voir vers ces systèmes-là qui auraient peut-être des leçons à nous donner, hein, peut-être?
Tout à fait. Moi, j'ai étudié en éducation et quand j'étais à l'université, on vantait le système scolaire québécois. On disait que beaucoup d'autres nations s'inspiraient de nous. Puis c'est vrai, on a de bons pédagogues, on a des gens créatifs, on a des gens imaginatifs, il y a des gens dévoués. Mais c'est important d'aller chercher des idées chez ceux qui réussissent et ceux qui ont du résultat. Et je pense que ça va demander de l'humilité de notre part, mais au bout de la ligne, ça va être payant.
Autre sujet, j'ai très hâte de vous entendre là-dessus, la parité parlementaire. On l'entend tellement, tant sur le palier provincial, fédéral, municipal, la parité parlementaire.
Bien oui, c'est parce qu'il y a un groupe de 5 femmes qui se sont mobilisées, ce sont d'ex-candidates, pas simplement d'ex-candidates, mais d'ex-députées de 3 partis politiques, du Parti libéral, du Parti québécois et de la CAQ, qui se sont dit, on devrait trouver des moyens à ce qu'il y ait une plus grande représentativité des femmes à l'Assemblée nationale du Québec. Et l'idée qu'elles ont eue, c'est que c'est pas d'imposer à ce qu'il y ait un certain nombre d'élus, parce qu'on peut pas imposer les électeurs qui décident, mais de donner une prime, une compensation financière aux partis qui vont avoir réussi à élire 40% et plus de femmes dans la représentativité de leurs députés. Alors, plutôt que de pénaliser ceux qui n'ont pas réussi à mobiliser des femmes, on donnerait une prime. Maintenant, je comprends que c'est important d'encourager les femmes parce que si la représentativité des femmes est basse, eh bien, il y a un décalage. La population est composée d'hommes et de femmes. Mais en même temps, là où est-ce que moi, j'aurais tendance à mettre un frein à cette idée-là, c'est que, est-ce que la prochaine fois, on va dire, ben là, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'Asiatiques, un peu plus d'Afro-Américains. Là, il y a un peu trop de chauves à l'Assemblée nationale, où il y a trop de gens aux yeux bleus. Et moi, je me dis, si les électeurs ont envie d'élire un homme, ils vont l'élire parce qu'il représente leurs valeurs, il représente leurs idées, il représente l'innovation, de l'action. Et je pense que c'est sur cette base-là qu'on doit rechercher à avoir des candidats de qualité, non pas en fonction du sexe ou de la couleur, de l'ethnie. Moi, je pense que c'est la qualité d'un candidat ou d'une candidate qui doit prioriser.
La pression est quand même forte dans la société. Oui. Hein? C'est ça qui arrive avec les parlementaires. La pression, elle est là quand même. Il y a une certaine pression pour qu'on retrouve la parité, et si ce n'est au niveau des femmes, au niveau de tout groupe ethnique, vous avez raison, mais il faut garder la qualité du candidat ou de la candidate. Monsieur Lantier, ça m'intrigue. Parlez-moi des thérapies de conversion en Nouvelle-Écosse. Emmenez-moi là.
J'aimerais préparer à nos auditeurs, parce que c'est un sujet sensible et délicat, et je vais essayer de le traiter avec le plus de doigté possible.
OK.
Parce que, écoutez, ce qui arrive, c'est que la presse canadienne nous informait que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a déposé un projet de loi pour interdire dans cette province les thérapies de conversion destinées aux jeunes des communautés LGBTQ, donc lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queer et autres. Donc, parce qu'il y a des parents, par exemple, qui sont inquiets parce qu'ils découvrent que leur enfant est soit homosexuel, bisexuel ou a l'intention de changer de sexe. Et là, ils consultent des thérapeutes pour dire est-ce que ça serait possible de les ramener, dans leur perspective, sur le bon chemin.
Mm-hmm.
Donc, les ramener vers l'hétérosexualité. Donc, ce projet de loi empêcherait les parents d'envoyer leurs enfants à consulter des thérapeutes qui exercent ce type de thérapie-là. Et à ce moment-là, ça crée un malaise parce que, suite à ce dépôt, le dépôt du projet de loi, qui n'est pas encore force de loi, mais qui est débattu, eh bien, il y a des groupes de la communauté LGBT qui ont fait des pressions sur des communautés religieuses qui avaient invité, par exemple, des psychologues ou des thérapeutes pour parler de ces thérapies-là, pour empêcher qu'il puisse y avoir des conférences là-dessus. Donc, ça crée un tollé en Nouvelle-Écosse, et certainement que ça va venir au Québec dans les prochains mois, parce que ce qui se passe ailleurs finit toujours par se retrouver au Québec. Alors, c'est important d'être sensibilisé à ces courants-là pour se préparer. Il va certainement y avoir un débat public à cet effet.
Bien, justement, vous venez d'y répondre. Ma question était, Nouvelle-Écosse, c'est pas si loin. Il y aura sûrement écho ailleurs. Alors, on aura été averti par Éric Lantier, les thérapies de conversion en Nouvelle-Écosse pourraient y avoir écho. De toute façon, c'est un sujet tellement discuté, il y a tellement d'évolution, puis en même temps, il y a tellement de discussions autour de ça que force de penser que oui, ça va se retrouver ici.
Oui, et ce qui est délicat, c'est que c'est le rôle et l'autorité parentale.
Oui.
Lorsque l'État s'ingère dans l'autorité parentale, puisque... Bon, en Nouvelle-Écosse, on devient adulte à 19 ans. Ici, au Québec, c'est 18 ans. Maintenant, avant 18 ans, les parents ont une certaine autorité. Maintenant, évidemment, lorsque les jeunes deviennent des adolescents, cette autorité-là prend une autre forme. On ne peut pas imposer à des adolescents ce qu'on impose à des enfants. Mais il reste que néanmoins, sur le plan légal, si l'État donne moins de pouvoir aux parents... Mais à ce moment-là, c'est comme s'ils deviennent légaux en quelque sorte. Les jeunes deviennent adultes avant d'avoir l'âge d'être adultes. Donc, c'est là qui est un peu le débat. Et est-ce qu'on devrait reculer ou avancer l'âge de la majorité, puisque les adolescents vont obtenir de plus en plus de droits et de plus en plus d'autonomie de la part de l'État. Et c'est là qu'il faut faire attention aussi.
Effectivement. Éric Lantier, première rencontre qui fut très agréable. Merci de vous être arrêté, mon ami. On se redit déjà la semaine prochaine. Bonne semaine. Au plaisir, Éric Lantier. On peut aller vous lire, vous suivre également, vous l'avez dit. Il y a des parutions qui s'en viennent. Et sur votre site, Éric Lantier.
Absolument, ericlantier.net. Alors, toutes mes communications sont affichées, sont disponibles sur cette plateforme.
Merci, une bonne fin de journée. Au plaisir.
Plaisir partagé. Au revoir.
Merci, bye-bye.